Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment gérer une crise d'adolescence? Vous savez, certains parents ont du mal à gérer leurs enfants pendant leur adolescence. Généralement, ces enfants deviennent têtus, ils s'opposent à tout, ils deviennent un peu rebelles. Ils manifestent c'est une sorte de rébellion que les parents ont du mal à supporter. Et en outre, ces jeunes gens s'isolent trop dans leur chambre, notamment avec les réseaux sociaux, avec actuellement Facebook, WhatsApp et les autres, la télévision. Et ils s'isolent dans la chambre et n'ont pas le temps de parler avec leurs parents. Alors comment gérer, c'est une crise d'adolescence, alors comment gérer cette situation? Professeur Marie-Jeanne Kalenga-Tchala est docteur en psychologie et enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Encore une fois, bonjour professeur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Nous parlons aujourd'hui de la crise d'adolescence. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par crise d'adolescence?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut savoir que pour se développer, chaque personne passe de crise en crise. Il y a la crise de 8e mois, la crise édipienne, la crise pubertaire, la crise de l'adulte, la crise du vieillard. De sorte qu'au cours du développement de toute crise à considérer comme maturant et son absence comme pathologique. Ainsi, de ce point de vue, il n'y a pas de crise adolescente. Ainsi, de ce point de vue, nous pouvons dire qu'il n'y a que réorganisation spécifique vécue comme telle par le sujet. Vous devez savoir d'abord que cette période de l'adolescence n'existe pas chez nous en Afrique. Elle est apparue avec la colonisation. Dans le temps, l'enfant passait cette période par des rites d'initiation. Quand la société constate que l'enfant arrive à cette période, on l'amenait soit dans la forêt, soit dans la brousse pour l'initier, parce qu'on a constaté que cet enfant a des manifestations sur son organisme. Maintenant, comment gérer cette crise? Il faut d'abord savoir qu'est-ce que signifie cette crise. Quelle est l'origine de cette crise et quelle est la nature de cette crise?
Voilà.
Oui.
Allez-y.
Nous pouvons dire que le concept de crise est très complexe, flou, multi-utilisé, puisqu'on le retrouve partout, en droit, en politique, en économie, en sociologie, en médecine et en psychologie.
Alors, quelle est l'origine?
En psychologie, oui.
Quelle est l'origine de cette crise d'adolescence?
Il y a trois facteurs ou déterminants qui sont à la base de l'origine de cette crise. D'abord, il y a la nouvelle image corporelle de soi, liée d'un côté au remaniement par l'adolescent de son enfance à la recherche d'un statut adulte. Deuxième facteur, il y a la crise d'identité du moi, de la personnalité. Donc, le déséquilibre psychique dû à la nouvelle image corporelle. Troisième déterminant ou facteur, il y a les activités d'apprentissage. Quand un adolescent est à l'école, on doit s'occuper de lui, on doit l'habiller, on doit le nourrir, ainsi de suite. On le considère toujours comme un enfant. Mais quand il est dans un milieu professionnel, et même s'il travaille bien, on le considère, on dit non, ça ce n'est pas un adulte, c'est un pré-adulte. C'est ça l'origine de cette crise.
Voilà, donc il y a aussi le changement qu'il y a dans son corps, il subit une certaine transformation dans son corps et voilà, et tout cela va ensemble. Alors, l'enfant devient un peu têtu, les parents donnent des ordres, je veux que tu rentres avant 18h, l'enfant refuse, quand il rentre, il a des discussions avec les parents, il s'enferme dans la chambre, il est tout le temps dans les réseaux sociaux. Alors comment les parents peuvent gérer tout cela?
Le problème qu'il y a, c'est le problème d'abord de l'identité. C'est une nouvelle naissance pour l'enfant. Les parents doivent comprendre qu'il n'est plus enfant, il veut s'identifier à une autre personne. Les parents doivent le considérer comme un adulte. Un adulte, on ne peut pas le laisser comme ça, mais il faut quand même changer le langage. Parce que nous, les parents, nous avons parfois le langage dictatorial. Il faut parler avec l'enfant, d'abord lui expliquer ce qui se passe en lui. L'enfant ne sait pas réellement le changement dans son corps. Heureusement que maintenant, dans notre enseignement, il y a un cours là, l'enseignement, l'éducation à la vie. Mais il y a un problème aussi. Le premier, comment dirais-je, je peux appeler ça la ménarche, les règles, le premier règle. La spermarche, les premières éjaculations. L'enfant peut mouiller ses sous-vêtements et les parents ne disent absolument rien. L'enfant peut continuer à faire le pipi au lit, et surtout des garçons, et pour les parents, ils vont les gronder, ainsi de suite. C'est aux parents d'abord d'expliquer aux enfants ce qui se passe au juste.
Voilà, donc les parents ne doivent pas être dictateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, oui, les parents doivent dialoguer avec les enfants et leur expliquer réellement ce qui se passe au juste.
Voilà, mais quand, par exemple, ils imposent à leurs enfants « je veux que tu rentres à la maison avant 18 heures » et l'enfant ne respecte pas, doit-on le punir? Comment les parents doivent se comporter à ce moment-là?
À ce moment-là, les parents doivent d'abord chercher pourquoi l'enfant est devenu têtu. L'enfant qui n'était pas têtu devient têtu. C'est comme, par exemple, l'enfant qui a bien réussi sa sixième année primaire, arrivé au secondaire, l'enfant échoue. On doit chercher d'abord le mobile. Pourquoi l'enfant est devenu têtu? Il ne faut pas directement punir cet enfant-là. Parce que est-ce qu'à la maison, il y a un bon climat? Vous savez que l'enfant peut punir ses parents en faisant ce que les parents ne veulent pas. Eux-mêmes, les parents doivent savoir est-ce qu'ils vivent en harmonie en famille. Ils doivent faire un examen de conscience. Il ne faut pas toujours dire que l'enfant désobéit, non. Il faut voir le climat familial. Et les parents doivent d'abord faire leur examen de conscience. Est-ce que ces parents-là qui disent que vous arrivez à 18h, est-ce que les parents arrivent à 18h à la maison? Surtout le papa. Il y a certains papas qu'on ne voit pas à la maison, on le voit seulement le matin. Mais il vient pour faire la loi. Et tout ça, les enfants observent. Et vous devez savoir que les enfants, ce sont des grands imitateurs.
Voilà, ce sont des grands imitateurs. Et même parfois, pendant cette période d'adolescence, les enfants ont tendance à avoir des copains et copines. Et parfois, souvent, les parents les interdisent. Voilà, je veux pas que tu fréquentes tel garçon ou telle fille. Parfois, c'est ça qui crée des conflits entre les parents et les enfants. Comment gérer tout cela?
Comment gérer tout cela? Vous devez savoir que à l'adolescence, l'enfant a besoin, l'adolescent a besoin. Vous devez savoir que la sexualité, c'est un besoin primaire, comme la faim et la soif, qu'on ne peut pas satisfaire n'importe comment. L'enfant a des pulsions sexuelles. Il faut expliquer à l'enfant. La sexualité, d'abord, c'est quoi? La sexualité, c'est ce qui s'entoure autour du verbe aimer. L'enfant a besoin de tendresse, de l'amour de ses parents. Mais quand les parents sont sévères, l'enfant va chercher ailleurs, là où on peut l'aimer. La sexualité ne signifie pas seulement l'acte sexuel, ainsi de suite. Il va trouver là où il va savoir qu'il y a de l'harmonie, ainsi de suite. Quand il rentre à la maison et on l'engueule, mais s'il trouve un endroit où il peut être avec des copains ou bien des copines, sans penser à la sexualité, parce que nous, pour la sexualité, c'est l'acte sexuel. La sexualité, c'est aimer, la tendresse, ainsi de suite. Tout ce qui est autour du verbe aimer. Nous, parents, nous devons savoir cela. Nous devons aimer nos enfants. Éviter tout cela, nous sommes à la base des grossesses précoces, ainsi de suite. Parce que un enfant pubère qui arrive adolescent, qu'on n'aime pas, mais il va chercher l'amour ailleurs. Et en cherchant l'amour ailleurs, vous connaissez ce qui va arriver.
Alors, comment les parents doivent-ils manifester cet amour envers leurs enfants pendant cette période de crise d'adolescence?
Il faut dialoguer avec les enfants, leur dire la vérité, appeler les chiens par son nom. Parce que nous, parents, nous considérons la sexualité comme un tabou. Il faut appeler l'enfant, lui donner des conseils, lui expliquer ce qui se passe réellement dans la vie. Malheureusement, nous ne dialoguons pas avec nos enfants.
Voilà, les parents ne dialoguent pas souvent avec les enfants. Maintenant, par rapport aux amitiés, certains parents remarquent que tel ami n'a pas de bonnes habitudes, peut influencer à mal son enfant, et les parents disent non, il faut se séparer de tel ou tel autre ami, mais l'enfant s'entête. Que faire à ce moment-là?
Que faire à ce moment-là? Il faut toujours dialoguer avec l'enfant, expliquer à l'enfant, il faut pas être avec cet ami, voilà, il y a ceci et cela. Quand vous dites à un enfant que cet ami, c'est un mauvais ami, mais mauvais dans quel sens? Il faut dire à l'enfant que c'est un enfant, par exemple, un voleur, un koulouna, un délinquant primaire. Il faut dire à l'enfant, les mobiles, pourquoi vous ne voulez pas que je sois avec cet ami? Il faut dire les mobiles, mais dire seulement que je ne veux pas que tu puisses causer avec X. Mais pourquoi je ne peux pas causer avec lui? Il faut dire le mobile, et là, l'enfant va écouter.
Voilà, l'enfant va écouter. Vous avez des questions et préoccupations. Nous parlons aujourd'hui de la gestion d'une crise d'adolescence avec professeur Marie-Jeanne Kalenga-Tchala, docteur en psychologie et enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94. Vous pouvez également nous écrire à service@radiookapi.net.
Okapi Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, l'économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Comment gérer une crise d'adolescence? Professeur Marie-Jeanne Kalenga-Tchala est notre invité. Alors, professeur, vous savez qu'actuellement, avec le développement des réseaux sociaux, l'Internet, la plupart des jeunes, les ados sont accros à ces technologies. Ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ils s'isolent dans la chambre. Ils passent des temps loin de leurs parents. Alors que vous avez dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre parents et enfants. Alors, comment gérer cette situation?
Bon, comment gérer cette situation? Vous devez savoir que l'adolescent ne pense pas ce qui est concret. Son raisonnement est devenu formel. C'est-à-dire, il pense par les hypothèses. Une hypothèse, c'est une réponse provisoire. Du fait qu'il émet les hypothèses, il veut chercher à vérifier ces hypothèses-là. C'est pour cela que souvent, ils sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour pouvoir vérifier ce qu'ils pensent. Et voir si effectivement, ce qu'ils pensent est vrai ou faux. Et c'est ce qui est à la base de cela. Comme je vous avais dit au début que cette période-là n'existait pas chez nous en Afrique. C'est arrivé avec la colonisation. Ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux. C'est à nous, parents, d'être prudents.
Mais dans ces réseaux sociaux, généralement, ces enfants, ils vont juste voir des sites de nudité, les personnes nues, et se transmettre des photos de ces gens-là.
Oui, vous devez savoir que les films pornographiques sont faits pour les gens malades. Est-ce que nos adolescents sont informés de cela? Quelqu'un qui regarde les films pornographiques, c'est quelqu'un qui est malade. Il va devenir malade. C'est pour cela que dans les écoles catholiques, quand on vous trouve avec un roman pornographique, on vous chasse, on vous exclut de l'école. On le fait pour les gens malades.
Oui.
Mais nous rendons nos enfants malades. Est-ce que nos enfants sont informés que quand vous regardez des films pornographiques, vous vous rendez malade? C'est comme aussi la masturbation. Quelqu'un qui se masturbe, il sera malade. C'est le problème de sensibilisation. Les jeunes ne sont pas sensibilisés. En regardant ce film-là, ils s'excitent et ils se satisfont.
Voilà.
Vous comprenez?
Oui, 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 très bien. Oui. Et le problème, c'est que les parents, généralement, ne sont pas à la page comme les ados par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc, les enfants ont accès à des informations que les parents ne contrôlent pas. Et comme les dialogues tendent à disparaître dans bon nombre de familles, ça devient difficile.
Oui, c'est difficile. D'abord, regardez nos familles. Vous allez voir les parents qui restent à la maison. La maman est au marché, le papa, je ne sais où, parfois la maman au travail, on se retrouve à 18h, 19h, on commence à préparer, on mange, ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé pendant la journée, on ne connaît pas, on ne demande même pas, on ne fait même pas le bilan. Et quand ça ne va pas, c'est la faute, et surtout de la femme. C'est ça le problème, problème de sensibilisation, et des problèmes de contrôle. C'est ce qui nous manque, et d'informations aussi. Nous ne sommes pas informés. D'ailleurs, je remercie la radio Capi, c'est une radio éducative. Ah. Voilà. Je pense que pour gérer cette crise-là, les parents doivent suivre les médias et organiser des émissions de sensibilisation.
Voilà, vous avez dit, pour bien gérer la crise d'adolescence, les parents ne doivent pas être dictateurs, et dialoguer avec leurs enfants, partager les informations avec eux, voilà, c'est de cette façon qu'on peut gérer la crise. Nous avons un auditeur en ligne, Joseph Pungu, il nous appelle des Kindu, bonjour.
Bonjour monsieur les maîtres, bonjour notre invité, à tous les amis du monde, bonjour, bonsoir partout où vous vous retrouvez.
Quelle est votre question?
Oui, oui, j'ai quelques préoccupations seulement. Compte tenu de ce que madame l'invité a parlé concernant l'interdiction d'un ami à un enfant, à un adolescent. Bon, moi, ça, en tout cas, j'ai quelques problèmes dans notre maison. Mon petit frère, ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut choisir une mauvaise compagnie. Mon petit frère avait un ami. Cet ami-là avait son habitude de frapper toujours sa maman dans la maison, ou soit d'injurer ses grands frères. Alors, moi, j'avais interdit mon petit frère de ne pas vraiment s'amuser, soit de continuer à partager avec cet ami-là. Mais compte tenu des de caractères que mon petit frère commence vraiment à imiter envers cet ami-là, je vois que le caractère de petit est devenu totalement difficile. Parce que c'est moi qui l'ai fait grandir. De 9 ans jusqu'à 19 ans, aujourd'hui, je suis avec lui dans la maison. Et même le niveau de... Je peux l'envoyer de faire des petits travaux à la maison, il refuse. Le soir, il part en promenade, il rentre à 22h, à 23h. Et quand je tourne sur lui, il commence même à enlever les tricots pour se battre avec moi. Et il achète des téléphones où je ne sais pas d'où vient cet argent qu'il est en train d'acheter les téléphones. Moi, je ne comprends pas maintenant, je voulais demander à notre invité si ce cas-là, parce que lui est en train d'imiter ce qu'il est en train de voir à ses amis-là. Bon, je l'ai appelé en conseiller, mais il n'accepte pas. Il ne reçoit pas les conseils convenablement. J'ai pu appliquer d'autres stratégies, mais j'ai appliqué la stratégie de dire que je suis son frère, il faut que je le batte. Mais lui enlève aussi les tricots pour se moquer de moi, que nous allons se battre. Bon, c'est moi qu'il il a déjà une grande poitrine. Bon, je ne veux pas vraiment que les gens me voient en train de se battre avec mon petit frère, je me calme. J'ai appelé même des voisins pour lui conseiller, mais ça ne marche pas. Je peux appeler ça, c'est une crise d'adolescence, sauf que c'est une délinquance ramassée à la rue. Ce que moi, j'aimerais demander à notre invité qui me donne un peu l'éclairage.
D'accord. Merci, Joseph Pungu. Constant est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur les auditeurs. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je vais poser une petite question de savoir.
Oui.
Quelles conditions qu'on doit mettre un adolescent à la maison pour ne pas devenir têtu? C'est ça ce que je voulais demander aussi. Merci beaucoup.
Voilà, conditions dans lesquelles il faut mettre l'adolescent pour qu'il ne devienne pas têtu. Alors, commençons par la question de Joseph, madame Marie-Jeanne. Il dit son petit frère de 19 ans a un ami qui injurie son grand frère et tape sa maman. Et il a interdit à son petit frère de ne pas les fréquenter, mais il n'entend pas et maintenant il se comporte très mal. Et il veut pas, il refuse de faire les travaux à la maison. Il sort pour rentrer très tard, à 22h, et quand son frère veut les tabasser, bon, et il enlève son tricot, son t-shirt et il est prêt à se battre avec son grand frère. Alors il sait plus comment gérer ça. Il se demande est-ce une crise d'adolescence et comment gérer cela.
Oui, merci. Oui. Mais je pense que nous pouvons dire que notre auditeur ne doit pas confondre les concepts de crise et les conflits, c'est-à-dire une lutte entre deux choses antagonistes, sans orientation ni limite temporaire définie à celle des stress, c'est-à-dire activité mécanisme, des mécanismes des régulateurs en réponse à un stimulus pathogène, pardon. C'est pour dire quoi? C'est bien d'accuser quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait que cet enfant-là arrive même à vouloir bagarrer avec son frère? Je pense qu'il y a quelque chose. Il faut chercher d'abord la genèse. Un enfant ne peut pas directement commencer à taper sa mère ni son père. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. En psychologie, il faut chercher la cause avant de trouver une solution. Quand vous ne connaissez pas la cause, ça ne sert à rien. Vous avez quelqu'un, vous avez un fou à la maison, vous l'amenez n'importe où, même chez n'importe quel prophète, on chante, on danse, et il se calme à cause des bruits, et vous dites qu'il est guéri. Non. Tant que la cause n'est pas dénichée, il n'y aura pas de solution. Moi, je répondrai seulement en disant que notre auditeur puisse chercher la cause. Pourquoi cet enfant-là est arrivé à se...
Il dit que son petit frère fréquente un ami qui n'a pas de bonnes habitudes, un ami qui frappe son grand frère et tape sa maman. Alors il a interdit de ne pas le fréquenter, mais il comprend toujours pas. Il s'entête et il veut savoir comment gérer cela. Parce qu'il
qu'il puisse chercher la cause. Avant que son frère fréquente cet ami-là, et qu'est-ce que lui faisait? Il a vu que cet ami-là tapait sa mère. Et progressivement, il a laissé son frère là-bas. Il doit chercher d'abord la cause. Qu'est-ce qui fait que son frère est arrivé à ce niveau-là?
Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Peuvent être les causes?
Les causes?
Oui.
Bon, ça peut être le manque de dialogue, comme je l'ai dit. Même la mise en garde. C'était laisser aller de sa part. Il a d'abord laissé son frère fréquenter cet ami-là, qui se comportait mal. Et quand il a vu que c'était devenu difficile, il l'a interdit. Or, l'enfant a déjà incorporé ce que son ami l'a faisait.
Alors maintenant, comment l'aider à changer de comportement?
Comment l'aider à changer le comportement? Il faut l'appeler et dialoguer avec lui. Et même chercher un conseiller. Et lui poser des questions. Et lui demander pourquoi il est arrivé à ce niveau-là. Il y a tout un processus là, une thérapie. Ce n'est pas dans quelques heures ou bien dans quelques jours qu'on peut changer quelqu'un.
Voilà, il y a toute une thérapie. Constant de Kinshasa dit dans quelles conditions mettre l'adolescent pour qu'il ne devienne pas têtu. Alors avant de répondre à sa préoccupation, on va accueillir Georges Mbouyou de Kalemi. Bonjour Georges.
Bonjour aujourd'hui, bonjour aussi à notre invité.
Nous parlons aujourd'hui de la crise, la gestion d'une crise d'adolescence. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai juste une question à poser à notre invité aujourd'hui. Mmh. Et je suis un enseignant de l'humanité, j'enseigne l'éducation à la vie. Mais nous avons un programme. Dans ce programme, on cite même les organes des génitaux. Et il arrive des fois, quand vous commencez à citer ces organes-là, vous sentez que les enfants commencent à paniquer, ils paniquent même. Bon, comment pouvons-nous s'y prendre? On est devenu traités comme des... Nous sommes traités, on dirait que c'est comme si ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la Bible. Bon, comment on peut s'y prendre par rapport à cette situation aujourd'hui?
D'accord, merci. Vous enseignez dans les élèves de quelle classe?
Bon, les classes moyennes, donc 3e, 4e des humanités.
Voilà, merci. Professeur Marie-Jeanne, vous avez la parole.
Oui.
Voilà, Constant de Kinshasa a dit dans quelles conditions mettre un adolescent pour qu'il ne devienne pas têtu.
Bon, je ne cesse de répéter, il faut toujours dialoguer avec l'adolescent et considérer la sexualité, ne considérez pas la sexualité comme un tabou. D'ailleurs, je vais enchaîner avec la question de notre enseignant de l'éducation à la vie.
La question de Georges.
Oui. Quand on dit qu'on vous considère comme si vous ne connaissez pas la Bible, ainsi de suite. Mais ces enfants-là, vous-même, vous les vivez. Ils viennent de quel milieu? D'abord, ces enfants-là, d'abord, ils n'ont pas maîtrisé leur image corporelle. C'est-à-dire quoi? Ils savent pas. D'abord, je voulais dire seulement que vous devez savoir que biologiquement, je suis né fille, vous êtes né garçon. Mais psychologiquement, on le devient. Mais ces enfants-là, d'abord, leur image corporelle, ils l'ont pas maîtrisée. Et que, à la maison, on ne parle pas de la sexualité. C'est un problème. C'est ce qui va amener ces enfants-là à l'adolescence, à des perturbations que nous connaissons très bien. Je pense qu'il faut appeler les chiens par son nom. Dire aux enfants réellement ce qui se passe. Les enfants ont l'habitude de poser la question. Papa, maman, d'où viennent les enfants? Non, les enfants viennent de l'hôpital. Et pourquoi ne pas dire aux enfants que j'ai mis au monde votre petit frère, vous leur expliquez en quelques mots que je suis avec votre papa, nous avons fait les relations sexuelles et je suis allé mettre au monde. Le problème qui est là, c'est le problème de la sexualité, les tabous. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes avec nos enfants.
Voilà, les parents doivent dialoguer régulièrement avec les enfants, les adolescents en crise, pour les aider à traverser à cette période difficile. Gentil Oumanou est à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour, cher notre invité du jour.
Quelle est votre question par rapport à ce thème?
En tout cas, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette opportunité sur ce sujet qui est très important. Alors, moi, j'avais jugé ceci. La crise, là, nous pouvons donner d'une autre part, des deux côtés, d'une autre chez les parents, d'autre chez l'État. Chez les parents, moi, je voulais le demander ceci. Les parents doivent prendre la charge de ses enfants en dialoguant comme notre invité vient de nous dire. Alors, du côté de l'État, manque du boulot de certains parents crée aussi une crise d'adolescence. Quand un parent qui manque un boulot, qui n'a pas la possibilité de donner à son fils même 10 000 francs pour l'achat de telles choses, ce fils-là doit aussi aller se prostituer pour avoir cette somme-là. Donc l'État aussi doit prendre sa charge pour créer du boulot, que les parents puissent aussi aider leurs enfants. Mais cela ne m'empêche pas de poser à notre invité même deux petites questions. Si j'ai bien suivi l'invité de son introduction, il a parlé de l'origine. Il a parlé de trois facteurs. Nouvelle image corporelle de soi. Quand quelqu'un se voit que mon organisme commence à prendre un développement quelconque, il sait vite que je suis adolescent. Mais on voit des petites filles de 10 ans. Si vous les trouvez dans ce programme, il y a des seins, un développement des seins. Alors je voulais demander à notre invité, à partir de quel âge on peut parler de l'adolescence? Merci, c'est gentil, Oumanou de Kananga, nouvelle vision.
Professeur, à partir de quel âge on parle de l'adolescence? Parce que d'après Gentil, il y a certaines petites filles de 10 ans qui connaissent déjà un développement des seins.
Oui, merci. Je pense que à toute règle, il y a toujours des exceptions. Il y a des enfants qui sont précoces. Je pense que l'adolescence commence chez la fille à partir de 11-12 ans. La fille est précoce par rapport aux garçons. Et chez les garçons, c'est à partir des 13-14 ans. Et ça va jusqu'à 18 ans dans notre pays. Et dans d'autres cieux, c'est jusqu'à 20 ans. Et je dois vous informer que dans d'autres, par exemple, en Asie, on a fait les études, l'adolescence n'existe pas là-bas.
Comment ça?
Non, pour eux, ils ont des rites d'initiation. Comme je vous ai dit que cette étape-là n'existait pas chez nous avant la colonisation. On l'étouffait dans les crises, dans les rites d'initiation. Un enfant qu'on amène en brousse, et en sortant de la brousse, directement, il est adulte, on lui demande de construire une hutte, et on lui donne une femme. Et cette période-là passe comme ça. Pour éviter tout ce qui se passe actuellement avec la modernisation.
Voilà. On retient que pour gérer une crise d'adolescence, vous avez dit, il faut le dialogue. Les parents ne doivent pas se comporter en dictateur. À part le dialogue, y a-t-il d'autres choses qu'ils doivent faire pour bien gérer cette période?
Oui, ils doivent, quand je parle du dialogue, il y a l'encadrement à tout point de vue. Quand on parle de l'encadrement, il faut que les parents s'occupent totalement de son enfant. Au point de vue éducatif et au point de vue social.
Bon, actuellement, dans certaines familles, on a l'impression qu'il y a une sorte d'abandon les parents ont jeté l'éponge, donc ils s'occupent plus des enfants, ils sont à la recherche d'argent et les enfants se gèrent eux-mêmes.
Oui, ils sont à la recherche d'argent, ils cherchent cet argent-là, c'est pour qui? Et pourquoi ils ont mis au monde? Quand vous mettez au monde, il faut être responsable. Ils vont chercher l'argent pour qui? Ça, c'est une démission totale. C'est l'irresponsabilité.
Voilà, c'est l'irresponsabilité. Nous avons en ligne Papi Kalema de Kinshasa. Bonjour Papi.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Le sujet du jour fait débat par rapport à la situation actuelle.
Oui.
Problème de Facebook, WhatsApp, que sais-je encore, la mondialisation.
Mm-hmm.
Donc nous vivons dans un monde que je ne sais pas comment le définir. Je voulais quand même poser, parce qu'il m'a oublié des questions à notre invité. Comment est-ce qu'elle peut interpréter l'accepter tel père, tel fille et telle mère, étant donné que la pédagogie définit l'enfant comme un fruit total, un fruit du don total de soi-même. Je dis bien un fruit du don total de soi-même. Par rapport, comment elle peut rallier la crise d'adolescence par rapport à cette conception, à ces principes-là, et entre les enfants et les parents, et qui peuvent être auteurs de cette crise d'adolescence dans une maison. Voilà mes deux petites préoccupations que j'ai vis-à-vis du sujet d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Bien, merci Papi. Professeur Marie-Jeanne.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez
dire? Oui, merci. Oui. Mais je pense que notre auditeur doit savoir que pour qu'un enfant se développe, nous avons trois déterminants. Quand il dit qu'un enfant, c'est un fruit total de soi-même, il y a d'abord les facteurs internes, l'hérédité. L'hérédité est à la base du développement de l'enfant. C'est pour cela que nous avons les enfants qui ressemblent à leur père, à leur mère. Il y a des enfants qui ont des maladies héréditaires héritées par leurs parents. Et le deuxième facteur, je ne veux pas entrer en détail, le deuxième facteur, c'est le facteur physique. Dans le facteur physique, il y a deux sous-facteurs. Deux sous-facteurs, il y a le milieu physique. Le premier milieu de l'enfant, c'est le sein maternel. Quand la maman prend des médicaments pour avorter, et quand la maman ne mange pas bien, mais elle va mettre au monde un enfant qui n'est pas bien. Et en venant au monde, l'enfant, le premier milieu, c'est la famille.
Dans le milieu physique, là, il y a deux facteurs. Comme j'ai dit, le physique, il y a les socioculturels. Les socioculturels, ce sont les masses médias, l'Internet, ainsi de suite. Ça a de l'influence sur le développement de l'enfant. L'enfant peut avoir un parent qui est très intelligent, qui est très poli, mais en regardant les masses médias et en vivant dans un milieu, par exemple dans le quartier, où il y a des enfants Kuluna, la délinquance primaire, l'enfant aura des problèmes. Et le dernier facteur, c'est le facteur intra-individuel. L'homme se développe en fonctionnant. C'est-à-dire, l'enfant doit faire tout pour bien se développer. Quand on va à l'école, on doit étudier pour réussir. Si on n'étudie pas, on ne va pas réussir. Prenons l'exemple d'un petit enfant qui fait un premier pas, il tombe. Mais il va continuer à se mettre debout jusqu'à ce qu'il va marcher. Ce facteur-là aussi est à la base du développement. Quand il dit que c'est un fruit total de soi-même, non. Parce qu'il y a ces trois facteurs-là qui sont en interaction. Le papa peut être un médecin, un professeur, mais il a des enfants Kuluna. C'est dû à ces trois facteurs-là.
Et voilà. Alors, la solution pour bien gérer une crise d'adolescence, notre invité nous l'a dit, c'est les dialogues. Les parents ne doivent pas se comporter en dictateur. Lorsque l'enfant devient têtu, il devient un peu rebelle, et le dialogue va résoudre pas mal de problèmes et encadrer l'enfant à tout point de vue. Merci, professeur Marie-Jeanne Kalinga-Tchala. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et enseignant à l'Université Pédagogique Nationale. Bonne journée.
Merci, pareillement. Merci.